France Culture.
Pourquoi avez-vous peur ? N'avez-vous pas encore la foi ?
Bonjour, Jean-Luc Gadreau sur France Culture en ce dimanche 8h30. Soleil et le rendez-vous protestant, votre magazine proposé par la Fédération protestante de France. Première émission de ces deux mois estivaux qui nous offriront des sujets, des rencontres diverses et variées. La semaine prochaine, par exemple, nous parlerons de Mozart et de Barthes avec la pianiste Anne-Lise Gastaldi. Dans deux semaines, une rencontre avec le comédien Lionel Astier. Nous parlerons des 500 ans de l'anabaptisme fin août. De Jésus dans la culture contemporaine, également quatre émissions réalisées avec les artistes du Festival des Arts de la Parole. Et pour entamer ce programme d'été, Michel Jass pour ouvrir une belle page d'histoire au travers d'une question, cathares et protestants, parle-t-on d'une filiation oubliée ? Bonjour Michel Jass.
Bonjour.
Michel Jass, vous avez exercé comme pasteur à Nîmes, à Uzès, dans l'Aude, à Toulouse, à Montpellier.
Vous êtes... Effectivement.
C'est ça ? Je ne me suis pas trompé. Vous êtes passionné pour un sujet aussi, et ça c'est vraiment le cœur finalement de votre travail, le catharisme que vous travaillez depuis 1987, je crois.
Voilà, qui m'est tombé un peu sur la tête. Enfin, ouais. J'ai rencontré Jean Duvernoy, celui qui a découvert la plupart des registres de l'Inquisition et à partir duquel Emmanuel Leroy Ladurie a écrit Montaillou, village occitan. Donc j'ai rencontré Jean Duvernoy et lui m'a parlé des cathares, il m'a donné des textes, il m'a demandé de le travailler. Il m'a dit, même si, monsieur le pasteur, même si c'est vous les trouvez hérétiques, ça peut être intéressant d'un point de vue sociologique.
Et à partir de là, vous avez publié 6 livres sur cette pré-réforme contestée dont nous parlerons ce matin. Ajoutons que vous êtes aussi membre de l'Académie de Nîmes et celle de Carcassonne. Oui. Alors, une première question indispensable, avant de nous dire pourquoi vous vous êtes autant intéressé par la suite au Qatar, qui sont les cathares ? C'est quoi le catharisme ?
Alors, ce sont des chrétiens, comme les autres chrétiens. Au début, je m'intéressais pas à eux parce que je croyais, comme beaucoup de Français, qu'il fallait être du département de l'Aude, il fallait croire au Graal, croire au trésor, des choses bizarres, la réincarnation, etc. Donc, je me méfiais un peu, vous savez, l'image un peu d'une secte. Ouais. Et en fait, en travaillant cette tendance du christianisme, j'ai vu que c'était des chrétiens comme les autres, pas tout à fait, parce qu'au Moyen-Âge, on était les chrétiens ne ressemblaient pas aux évangéliques ou aux protestants actuels. C'était plutôt des ordres monastiques. Mmh. Et puis ceux qui étaient pas dans les ordres, ils se débrouillaient un peu comme ils pouvaient. Alors la population était tantôt catholique, tantôt cathare, en sachant que le catharisme c'était un ordre religieux monastique.
On est à quelle époque là avec eux?
Mais alors ça, il commence, le catharisme commence quand on commence à les brûler. Alors en fait, ils ont existé peut-être un peu avant, mais on a commencé à les brûler à l'an 1000, vers l'an 1000. Et puis ils ont contesté finalement la réforme grégorienne. Donc quand l'Église catholique a voulu centraliser un peu plus sa liturgie, eh bien les cathares ont refusé. Quand il y a eu de Rome, on a fait venir énormément de reliques pour que les évêchés soient marquent une terre chrétienne. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont contesté, et c'était autour de certains théologiens qui après ont été taxés d'hérétiques et qui ont été brûlés. Donc à partir de l'an 1000, et puis ils disparaissent au 15e siècle.
Alors on va parler un peu plus des choses auxquelles ils croient, enfin pas mal d'éléments aussi qui nous poseront des questions sur leur lien avec le protestantisme. Oui. Mais vous, en tant que pasteur, en tant qu'homme, Michel Jass...
Pourquoi je me suis intéressé
au Qatar ? Ouais. Qu'est-ce qui a fait ? Alors vous nous avez dit comment vous avez eu accès à cette histoire, mais qu'est-ce qui vous a autant passionné ?
Eh bien, peut-être. Alors ça, c'est bon, on veut jouer sur de façon inconsciente. Est-ce que si l'inconscient existe, moi, je préfère parler de l'âme en tant que théologien, mais là, si l'inconscient existe, c'est peut-être parce que moi, je me suis intéressé quand j'étais enfant aux Indiens. Bon, en fait, mon père disait toujours, parce que mon nom de famille est très rare, Jass, et en fait, la famille a été décimée pendant la guerre de 14, et mon père pensait qu'il n'y en avait pas d'autres. Alors, il disait toujours, on est les derniers des Mohicans. Mohicans. Je me suis intéressé aux Indiens, aux derniers Mohicans. Et en fait, c'est vrai qu'on était d'une famille peut-être un peu bizarre. J'avais des grands-pères qui étaient francs-maçons, donc ils étaient protestants, mais ils étaient anticléricaux. Et puis, mon père était très libéral. Il avait vécu la résistance pendant la guerre. Il disait, c'est difficile d'être chrétien quand il y a des moments de conflit. Et ma mère était évangélique. Elle s'était fait rebaptiser chez les pentecôtistes juste après-guerre. Donc, j'étais influencé. Alors donc j'étais un peu
métis.
Alors j'étais un peu bizarre. Et alors je suis toujours un peu intéressé aux gens bizarres.
Et c'est comme ça.
Je le suis devenu peut-être. Ouais. Alors, c'est pour ça que je me suis intéressé au Qatar. Et puis j'ai rencontré en 1985 Jean Duvernoy. J'allais l'interroger parce que je travaillais le judaïsme au Moyen Âge et je voulais l'interroger sur les Juifs qui ont été condamnés par l'Inquisition. Mmh. Et en fait, lui, il m'a donné quelques réponses. Finalement, s'ils n'étaient pas très originaux, ces Juifs du pays de Foix, mais il m'a dit, mais essayez de travailler d'un point de vue sociologique entre est-ce que savoir s'il y a une parenté ou pas dans le pays toulousain, dans le pays de Foix, à Albi, à Carcassonne, entre les Qatars et puis deux siècles ou trois siècles, enfin ça n'est pas comment on compte, le protestantisme. Donc Jean Duvernoy m'a donné des listes de noms, et puis des tables avec des index de noms, etc. Et en fait j'ai vu qu'il y avait une sorte d'homogénéité entre les patronymes qu'on trouve sur ces 19-20 départements du Midi et la zone qui était concernée par les registres de l'Inquisition. Donc une confirmation de savoir si ces registres de l'Inquisition correspondent vraiment à une réalité humaine avec les patronymes qui existent encore aujourd'hui. Et puis après, j'ai travaillé sur les listes des protestants et des catholiques de cette région du pays, entre guillemets, pays Qatar. Donc, et en fait, là, j'ai vu qu'il y avait une parenté, donc ça fait à peu près 12 000 patronymes dans ce qui correspond au département de l'Ariège, de l'Aude, du Tarn et de la Haute-Garonne, et un peu le Tarn-et-Garonne. Et en fait, chaque fois, je trouvais une différence de taux d'homonymie, c'est-à-dire que les protestants portent plus de noms Qatar que leurs voisins catholiques. Donc on pouvait comparer, surtout dans cette région où il y a eu les procès de la Ligue. La Ligue a été très forte dans la région toulousaine. Donc par localité, on a les noms des catholiques et des protestants. Alors que c'est pas valable pour Montpellier ou Nîmes, où alors tout le monde est devenu protestant à un moment. Donc on peut pas savoir.
Michel, je me dis, j'avais prévu qu'on écoute une liste de noms en fin d'émission. Mais si on l'écoutait maintenant, puisque vous nous parlez de ces noms, et nous avons avec nous Juliette Angeletti. Juliette, est-ce que vous voulez bien nous lire justement quelques-uns de ces noms?
Les noms les plus caractéristiques portés par des Qatars et qui sont peu communs. C'est des noms assez rares, quelquefois disparus, et qui ont été portés par les protestants du XVIe siècle dans cette région.
Juliette.
Les Hunaux de Lanta, les Dussons, les Lordas, les Châteauverdins, les Miglots, les Loubas, les Portals, les Lamottes, les Montesquieu, les Jourdains, les Pastoraux, les Rabastins, les Revels, les Rubais, les Roufiac, les Ponce, les Perrault, les Pélissier, les Saint-Félix, les Saint-Jory, les Villeneuve, les Alfaro Pharaon, ou avec des patronymes moins rares, les Bonafos, les De Bonvillard, les Guitards, les Calvets, les Calas, les Corneilles, les Calveyrac, les Langlade, les Laurens, les Lugan, les Lespinas, les Dolières, les Dolmières, les Doliviers, les Soupés, les Salvats, les Sabatiers, les Sicards.
Merci Juliette. Alors ces noms nous disent quoi ?
Enfin, c'est-à-dire que par eux-mêmes, ils ne disent pas. Oui. Et même quand ces populations sont devenues protestantes au XVIe siècle, ils n'ont pas tout de suite dit je porte un nom hérétique. Alors qu'à l'époque, on savait discerner les familles. Par exemple, pour les Hunaux de Lanta, c'est Pierre Hunaux de Lanta au XVIe siècle qui veut soulever Toulouse pour la réforme. Il était capitoul, c'est-à-dire un consul de la ville de Toulouse, il était un des chefs des capitouls de 1562. Il a été effacé par la suite parce qu'il a perdu son combat. Il avait, comme membre du consistoire de Toulouse, il avait demandé au pasteur de Genève Et c'était Théodore de Bèze qui devait venir comme pasteur à Toulouse si la réforme avait réussi. Et puis après, dans son, autour de Lanta, autour de son château, il a fait venir 300 jeunes pour prendre un peu le pouvoir. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de police. On dit toujours, au moment des guerres de religion, il y avait aussi des sortes de milices, mais parce qu'il n'y avait pas de police, il fallait qu'il y ait un service d'ordre. Et en fait, il a fait venir. Et en fait, on savait très bien à l'époque que Pierre Hunault de Lanta était une de ces grandes familles qui avaient lutté contre les croisés, contre la croisade des Albigeois. Il était lui-même de famille hérétique. Il se flattait de descendre d'un diacre, avec le terme de l'époque, un diacre albigeois. Ouais. Et c'est vrai que, bon, à l'époque de la croisade et de la persécution des cathares, il y avait... on a plusieurs personnes qui s'appellent Hunault de Lanta. On connaît le château, on connaît le village et on connaît leur hôtel particulier à Toulouse. Et à Montségur, il y avait trois femmes qui ont été brûlées et qui étaient de la même famille, et de la famille Hunault. L'épouse de Raymond de Péreil, le seigneur de Montségur, était une Hunault de Lanta. Donc vous voyez, c'est manifeste.
Mmh. Oui, les noms deviennent des preuves en quelque sorte de cette filiation. Alors on va aller sur le registre maintenant plus théologique. Et ça passe notamment par des textes bibliques qui sont un peu des références pour les cathares. Ils font partie des préférés cités par les cathares. Et on va profiter de la voix de Juliette Angeletti qui est avec nous, qui va nous en lire un certain nombre. Alors on va prendre le temps, là, non pas d'un court rendez-vous avec la parole comme on en a l'habitude, mais d'un bon moment où on va écouter le texte biblique au travers donc de ces passages préférés des cathares.
Je ne suis pas de ce monde, vous n'êtes pas de ce monde. Jean 8. Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. 2 Pierre 3, 13. Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Ésaïe 65. Première épître de Jean. Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît sous la puissance du mal. Les versets du Nouveau Testament qui concernent Dieu. Dieu seul est bon, Luc 18. Dieu ne tente personne, Jacques 1. Dieu habite une lumière inaccessible, 1 Timothée 6. Dieu réconcilie tout avec lui-même, Colossiens 1. Dieu sera tout en tous, 1 Corinthiens 15. Épître aux Corinthiens. Ce sont les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendu et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternels. Nous désirons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Eh bien, merci beaucoup, Juliette. Michel Jasse, avec ce que nous venons d'entendre, et plus largement encore, quelles sont à vos yeux les grandes caractéristiques théologiques, cette fois-ci, des cathares? En quoi croient les cathares?
Alors, la première caractéristique, c'est qu'ils ne se fondent que sur la Bible, mais avec un noyau interprétatif qui est le leur. Hein. C'est-à-dire que là, en fait, il y a une priorité au milieu johannique. Donc, on pourrait dire la première épître de Jean, ça fait du catharisme. Et d'ailleurs, Jean Duvernoy, qui a découvert ces registres de l'Inquisition à partir de Toulouse, était d'une famille du pays de Montbéliard, et il connaissait bien la Bible. Il a été formé dans ce milieu protestant luthérien du pays de Montbéliard. Et en fait, il le disait, le catharisme, c'est uniquement quelque chose qui est déduit traduit de la Bible, mais de façon un peu contestataire par rapport au christianisme catholique de l'époque. Et par exemple, ce verset de Jean 8, « Nous ne sommes pas du monde, mais le monde n'est pas de nous », se trouve cité dans... Alors, par exemple, dans une des prières occitanes qui a été souvent répétée par les cathares, qu'on trouve dans le registre de l'Inquisition de Jacques Fournier, et en occitan, donc le registre de l'Inquisition était en latin, et on dit que ces gens disaient « Père Saint, Dieu traiturier des bons spirites, qui a non faillite, ne mentit, ni eret des toupets, per por de la mort ». Et puis après, dans le monde du Dieu étranger, donc c'est bien la théologie cathare dont il s'agit, une sorte de contestation par rapport au monde visible, et avec cette référence à Jean 8, puisque nous ne sommes pas du monde et que le monde n'est pas de nous. Donc cette prière caractérise un catharisme, c'est de la région de Montaillou, hein, et qui a été retrouvée par un historien qui a écrit à partir de Carcassonne une revue qui s'appelait Folklore. Et Urbain Gibert, qui était professeur au lycée de Carcassonne, a découvert une personne qui était en Sabarthès, au sud de, enfin, dans la région de la Haute-Ariège, et qui lui disait, mais ma grand-mère récitait cette prière en occitan, et elle se croyait bonne catholique. Exactement la prière, mais qui est longue, hein, qui aujourd'hui, en dactylographié, ça ferait 2 pages. Ouais. Elle récitait cette prière, donc c'est en 1966. Cette personne a affirmé. Et puis, j'ai un de mes amis qui a donné une conférence dans, alors c'est de la haute vallée de l'Aude, et qui a, après sa conférence, il y a une dame qui est venue en disant, je suis la fille qui était dans le Sabarthès, dans l'Haute-Ariège, et qui a parlé de la prière de notre grand-mère, etc. Donc, c'est une histoire qui a été confirmée. Ah, c'est chez les petites gens. Ils croyaient être bons catholiques, ils avaient une prière en occitan, et cette prière est de théologie cathare. Comme certains vaudois ne le savaient pas, ils utilisaient des manuscrits, donc on est avant l'imprimerie, donc avant la réforme, et ils utilisaient des manuscrits qui n'étaient pas d'origine vaudoise, mais d'origine hérétique, semblable, mais aux vaudois, mais c'était cathare, donc plus dualiste. Ouais. Donc les cathares étaient quand même donc lecteurs de la Bible, mais ils lisaient la Bible pour contester ce monde.
Alors, je vous propose une courte pause musicale avec un extrait du psaume 68. On est au cœur là du récit biblique. C'est ce fameux psaume dit des batailles qui commence ainsi que Dieu se lève seulement, qui est chanté encore souvent le dimanche dans de nombreux temples. Mais là, évidemment, pour cette émission, dans une version particulière, en béarnais, enregistrée par la chorale de l'Église évangélique libre d'Orthez. Pour information, d'ailleurs, le psautier béarnais a été publié à Orthez en 1583. Les 150 psaumes de David ont été ainsi traduits en béarnais par le pasteur Arnaud de Salette, d'après les textes originaux, pour être adaptés à la musique du psautier de Genève. Le psaume 68. Que Dieu se lève seulement, le psaume 68, mais en béarnais ici. Justement, Michel Jass, quid de l'occitan chez les premiers protestants ?
Eh bien, chez les premiers protestants, certainement, le fait que la réforme de Calvin est mise sur le français, ça a été une grande déception de voir qu'on ne passe pas à la langue vernaculaire, comme on le disait en théorie. Et ça a été certainement la déception aussi des Vaudois, à qui les gens de Genève ont fait financer la Bible dite d'Olivetan. Ben, ils s'attendaient à une Bible en occitan. Les Vaudois ne parlaient qu'occitan. Ouais. Et puis on leur sert une Bible en français. Donc il y a dû avoir pas que de la joie au moment de la réforme, mais aussi une certaine déception. Mais une déception qu'on va trouver jusqu'au XIXe siècle. J'ai peut-être travaillé sur les prédications population en Occitan qui existait dans le Midi, mais on n'annonçait pas l'heure du culte, c'était pour les petites gens. Donc c'était à Nîmes, c'était à 8h30 au Temple de l'Oratoire, à Montauban, c'était à 8h30. Mais on sait que Napoléon Peyrat, un grand admirateur des Albigeois à Qatar, disait aussi que dans l'Ariège, il cite le nom de tous les pasteurs qui prêchaient pour se faire comprendre, et bien ils étaient obligés de prêcher en patois.
Eh oui, dans la langue qui pouvait être comprise.
voilà. Mais officiellement, c'était mal vu.
Oui. Il y avait quelques luttes internes déjà.
Et en fait, même les catholiques, quand j'ai travaillé sur ces listes de catholiques ou de protestants, il y a de Gaillac, dans la région d'Albi, essaient de montrer, en fait, qu'il y a une contradiction et que la réforme s'est basée sur le français, une langue qui était un peu étrangère. Et ce prêtre, qui demande à sa population de résister à la réforme, insiste sur des arguments régionaux.
Vincent Smetana, grand chroniqueur devant l'Éternel, vous qui avez toujours le mot pour dire, vous avez réfléchi, j'imagine, à ce mot Qatar quand je vous ai fait la proposition d'être là.
J'ai réfléchi, Jean-Luc. Ouais.
Et qu'est-ce que ça vous a inspiré?
Je dois bien avouer que j'étais surpris lorsque vous m'avez partagé ce mot, hein, Qatar. Peut-être était-ce pour me faire une farce, peut-être était-ce pour me tester ou me pousser à dire un mot sur les vareuses du PSG. Hein, dire Qatar pour voir si oui ou non j'aurais toujours un mot pour dire ce mot. Eh bien, surprise, j'ai saisi avec joie la balle au bon. Je ne sais pas pourquoi j'utilise cette expression un peu ridicule qui de fait signifie non pas courir derrière un bâton ou une vieille balle de tennis et vous la rapporter en courant pour que vous me lanciez à nouveau un autre mot. Non. L'écriture d'une chronique, ça ne fonctionne pas comme ça. Non, je suis un bon bougre, moi. Voilà, j'écris de plein gré, expression qui signifie sans opposition, de mon plein accord, de manière consentante, par ma volonté pleine et entière, et non celle de qui que ce soit, même pas vous, Jean-Luc. Donc, pour reprendre l'expression avec la balle et le bon, oui, vous me dites Qatar, et bim, je vois là l'opportunité de saisir vivement et à propos une occasion favorable de découverte. Parce que, au début, vous dites Qatar, je pense, je sais pas, château en Espagne, je pense, château en Espagne, j'ai tout faux. Je pense tourisme, genre, oh non, on va pas voir Narbonne, ce n'est pas que ça vaut tant la peine que ça. Par contre, si tu es dans la région, va voir les châteaux Qatar. Je pense donc ici tourisme, mais j'ai tout faux. Alors, je pense que Qatar me fait penser à cathartique, et je n'ai pas tout à fait tout faux, puisqu'il y a la racine de ce mot catharsis, qui donne pur ou purifiant. Et là, j'y suis presque, puisque les cathares, mouvement religieux apparu vers le XIIe siècle dans le sud de la France, se distinguaient par une foi pure.
Alors la balle rebondit et on finit donc par toucher au but. Comme cinq fois les Parisiens, il y a peu, puisqu'on est dans le sud, c'était bien de le placer quand même. Une foi pure, mais encore.
Ah, ce 5-0 Paris-Milan, génie ou agacement, allez savoir, mais pur talent, disons. Bon, donc une foi pure, mais encore. Alors, par facilité ou curiosité, ou les deux, j'ai cliqué sur le lien que votre invité me proposait de consulter et j'ai découvert, voyez-vous quoi, il y avait des cathares du Nivernais et de la Bourgogne à la Flandre et à la principauté de Liège en passant par la Champagne jusqu'à sa disparition vers 1240-43 et principauté de Liège, c'est-à-dire Belgique, c'est-à-dire mais chez moi.
Chez vous.
Chez moi, incroyable.
Alors j'imagine votre surprise, votre joie peut-être.
Ma surprise et ma joie. Et là on approche, on est chaud. Comme dans le jeu Chaud et Froid, en scrollant dans les archives de la bibliothèque d'Arras, je trouve un long fragment de sermon anonyme, Accipite vulpes parvulas, consacré tout entier aux bougres, le prédicateur prenant pour cible les cathares, les désignant comme débauchés et hérétiques, victimes donc au début du XIIIe d'une croisade contre les bougres. Bigres, ça ne rigole plus. Et pour celles et ceux qui ont abandonné, hélas, le latin en sixième, je traduis vite fait, accipite vulpes parvulas, attraper les petits renards. Et là, non seulement ça m'intéresse, mais ça me touche. Car bougre, individu qui dame, type meuf, mec, qui n'a pas froid aux yeux, qui ne manque pas de courage, je poursuis ma lecture et je lis protester, je lis rébellion, je lis dissidence, dire des cathares que ce sont des bougres à l'époque, c'est les injurier. Or, les synonymes abondants et généreux pour protester, rébellion et dissidence sont contester, réagir, s'indigner, résister, tenir tête et ne pas se laisser marcher sur cette tête, faire entendre sa voix, affirmer, diverger, tenir bon, terme et qualité dont il serait pur génie de prendre héritage plus que jamais aujourd'hui pour ne pas sombrer dans le flot de boue d'un fox hégémonique et tyrannique. Et je parle ici de géopolitique comme de scrollage domestique, bien sûr. Alors, de loin, et trop tard, hélas, je dis chapeau bas, cher Qatar. Non, je le redis. chapeau bas, cher Qatar. Et puis tiens, même si l'un d'eux a dézingué le poulailler de ma sœur la semaine dernière, j'avoue une tendresse toute particulière pour les renards. On leur voue une haine féroce, les pensant fourbes et malveillants, alors qu'en réalité, les renards sont timides, craintifs même. Moi oui, j'ai cette tendresse pour le renard, qui incarne une dualité qui touche des aspects profondément humains, profondément cathares, comme cette capacité rare à déjouer les pièges de l'existence, à naviguer entre ombre et lumière, à tenir tête avec courage et audace, à faire preuve de patience et d'une grande résilience. De bons petits bougres, en fait. Hein ?
Merci beaucoup, Vincent. Et sans le savoir, vous ouvrez la porte aussi à une envie que j'avais avec cette émission sur les cathares et Michel Jass en studio, celle de parler d'un film qui, justement, s'appelle Bougre. Alors, ça s'écrit Bogre.
Ça s'écrit Bogre, mais ça se prononce Bougre.
Voilà. C'est un magnifique film qui va sortir en salle à Paris à la rentrée, qui est déjà passé dans le sud de la France et qui continue ainsi son parcours. Bougre, le christianisme cathar dans l'Europe médiévale, réalisé par un Italien, Fredo Valla, distribué en France par Francis Fourcou, cher réalisateur que j'apprécie beaucoup et que l'on connaît entre autres pour Lorette 1942, une volontaire au camp de Ressebedou, racontant l'histoire d'une jeune résistante protestante, ou encore le très beau Un pont au-dessus de l'océan qui raconte le lien entre l'Occitanie et le peuple natif américain Osage. Alors avec Bougre, Michel, oui, c'est le catharisme qui est à l'honneur.
Oui. Mais c'est un terme insultant, c'est-à-dire que espèce de bougre, espèce de bulgare, et ça fait référence à l'origine présupposée, mais certainement réelle, des premiers cathares qui n'étaient pas seulement en Italie du Nord, mais aussi en Bosnie et puis en Bulgarie.
Oui,
et
parce que la Bulgarie, là, les Bulgares sont aussi présents dans ce reportage, avec toute cette influence aussi.
C'est-à-dire que c'est le catharisme, il y a une pensée théologique qui vient de Byzance. Et aux frontières de Byzance, quand il y avait des hérétiques à Constantinople, ils allaient du côté de la Bulgarie, dans les monastères dissidents en Bulgarie. Mais aussi le terme cathare était insultant. C'était les catholiques qui l'ont utilisé par les grands colloques de Latran, en disant ces cathares, en les associant aux hérétiques manichéens à l'époque de Saint-Augustin. On les appelait les purs. Ah, vous êtes purs, vous croyez être purs, mais vous l'êtes pas tant que ça. Et puis, de façon populaire, pour dire les cathares, adorer un chat qui serait pour les messes interdites, en faisant des choses horribles, comme les Vaudois, on disait qu'ils adoraient le bouc. Le bouc, le chat, le bulgare.
Merci beaucoup Michel Jass. On sent toute votre passion pour ce travail autour des cathares. Eh bien, on peut le retrouver tout ça sur un site, cathares au pluriel et protestants au pluriel. Il y a des livres, beaucoup de choses à voir, à entendre, à lire. Le plus simple, c'est on tape le nom de Michel Jass, J-A-S, sur un moteur de recherche et vous allez avoir accès à plein de choses, plein de ressources fortes, intéressantes.
Merci.
Merci beaucoup, Michel.
Merci à toi.
Nous nous séparons avec un titre qui s'appelle tout simplement Les Cathares de Christian Salès et du groupe Hoc. C'était Soleil, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé ce matin par Thomas Jost avec Cédric Chatelus à la prise de son. Émission à réécouter sur le site protestant-au-pluriel.org, à tout moment sur le site de France Culture ou en podcast avec l'application Radio France. La semaine prochaine, c'est la pianiste Annelise Gastaldi que je recevrai pour parler de Mozart et de Barthes. Mais pour le moment, sur France Culture, vos informations, puis Talmudique, présenté par Marc-Alain Watnin. Très bon dimanche à chacune et chacun.